Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver, Marianne Paquette, derrière le micro pour ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé que vous écoutez à l'instant sur Canal M. Souvent, lorsque l'on est malade, on se sent un petit peu désemparé. Je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre nous, démunis aussi. Et c'est pas rare que l'on se précipite à l'urgence, faute de savoir où aller. Et avec toutes les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire d'engorger nos urgences dans nos centres hospitaliers. Imaginez une application mobile qui pourrait vous faire épargner du temps à l'urgence. Ça existe. Ça s'appelle Docteur. Ça a été lancé plus tôt cet été par 4 jeunes Montréalais. Et ça souhaite, cette application, permettre de désengorger les urgences en permettant au grand public de consulter la liste du taux d'occupation des urgences des hôpitaux les plus proches dans vos quartiers, c'est-à-dire dans vos villes, vos villages, parce que c'est accessible partout au Québec, ou encore de vous diriger vers une clinique médicale lorsque ça semble plus approprié. J'en parlerai tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec l'un des cofondateurs, Quentin Gay. Et puis, vous dire que selon l'Institution nationale de santé publique du Québec, 33 % des femmes souffrent d'incontinence urinaire, et ça suite aux 3 premiers mois suivant un accouchement. Et c'est dû notamment à une descente de la vessie. Et là, vous vous dites, OK, une descente de la vessie, qu'est-ce qui cause ça? Entre autres, ça peut être des sauts un petit peu trop brusques ou un entraînement physique intense qui ne serait pas adapté à notre forme physique. Parce que oui, un retour à l'activité physique, au sport, trop rapidement, ce n'est pas sans risque pour une femme qui vient de donner la vie. Ça nécessite de l'encadrement et ce, de professionnelle. J'en parle à l'instant avec Guylaine Derry, elle qui est physiothérapeute spécialisée en rééducation périnéale, cofondatrice de la clinique Europhysio. Guylaine Derry, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous joint du côté de Gatineau, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Il fait soleil aussi là-bas?
Ah, il fait très beau.
Bon, tout comme nous ici à Montréal. Guylaine Derry, ce qui est souvent proposé après un accouchement, lorsqu'une femme souhaite se remettre à l'activité physique ou au sport, c'est 4 semaines dans le cas d'un accouchement naturel, 6 semaines pour une césarienne, mais j'ai l'impression que c'est du cas par cas, qu'il faut vraiment évaluer chaque femme lorsque vient le temps de se remettre à l'entraînement physique.
Oui, effectivement. Ça dépend de la condition physique de la femme avant sa grossesse. Et ça dépend du type d'accouchement, comment c'est allé aussi son accouchement, parce qu'un accouchement, même dans le meilleur des mondes, ça amène un étirement quand même assez important au niveau de la musculature périnéale, ce qui fait que en postpartum, il y a quand même une altération de ces muscles-là et qui peuvent donner différents problèmes à différents degrés.
Mm-hmm. Quels sont ces problèmes-là? Je parlais tout à l'heure de descente de la vessie. Je pense que c'est peut-être le problème le plus récurrent. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Ce qu'il faut faire attention après l'accouchement, c'est premièrement le plancher pelvien. Comme je disais, ce sont des muscles qui s'étendent du coccyx au pubis et qui ont subi un étirement important. Alors, on rapporte que 60 % des femmes vont souffrir d'incontinence urinaire en postpartum immédiat. Et 30 % comme vous l'avez dit, là, 3 à 9 mois postpartum. Fait qu'il est primordial de rééduquer ces muscles-là, pas juste en postpartum, mais de commencer aussi avant l'accouchement.
Mm-hmm.
Et il peut y avoir aussi des problèmes d'épisiotomie, de déchirure aussi, qui peut atteindre quelquefois jusqu'au rectum. Fait que ça peut être source de douleur. Alors, c'est toutes des choses qu'on doit s'occuper. Il y a aussi La diastase abdominale, la diastase, oui. Ben, c'est la séparation des grands droits qu'il faut faire attention, puis qu'il faut alors éviter les redressements assis. Parce que les femmes, après l'accouchement, leur plus gros souci, c'est de retrouver leur taille, de perdre leur poids. Et souvent, elles vont se remettre au redressement assis beaucoup trop rapidement. Et ça peut aggraver la diastase. Mm-hmm. C'est important de connaître aussi des exercices qui sont spécifiques à cette correction-là. Fait qu'il faut éviter les redressements assis conventionnels.
Mais Guylaine, c'est vrai que c'est un souci de bien des femmes de retrouver la taille, de retrouver la silhouette, oui. Mais j'ai l'impression que ce souhait-là est accentué par une certaine pression des gyms, des centres sportifs qui se servent un petit peu de cette clientèle-là qui est peut-être un petit peu plus vulnérable.
Oui, absolument. Et ils savent très bien que ça peut être très lucratif. C'est un marché qui peut être très lucratif. Alors, puis c'est pas nécessairement des gens qui connaissent toute la problématique là de la condition de la femme en postpartum. Donc, qui vont leur demander, c'est ça, des sauts, beaucoup de sauts, de courir, de faire des sprints aussi, alors que c'est pas c'est pas indiqué dans leur condition. Là. Nous, on recommande là, d'attendre 3 à 4 mois avant de reprendre les activités sportives avec impact. Ça inclut course à pied, soit la corde, et jumping jack et les redressements assis. Mm-hmm. Pour d'abord commencer par la rééducation périnéale avant de penser à reprendre ces activités-là. Mais ça ne s'empêche pas de commencer d'autres activités qui sont sans impact. Là. 2 semaines postpartum, on peut commencer déjà à marcher sur des petites distances au début, en augmentant la distance, l'intensité, sans causer de fatigue excessive ou de douleur. Mm-hmm. C'est bien important.
Donc, de faire des exercices qui sont peut-être un petit peu plus appropriés à notre condition. Et en même temps, comme vous le mentionnez, vous l'avez mentionné là, tout à l'heure, de se permettre d'évaluer notre situation bien personnelle, c'est-à-dire c'était quoi notre forme physique avant la grossesse, pendant la grossesse, quel type d'accouchement. Je pense que c'est aussi des choses qu'il faudrait mentionner à notre entraîneur.
Oui, absolument. Et malheureusement, ben on n'en parle pas dans ces cours-là. Il n'y a pas... Il n'y a pas aucune attention qui est accordée à ces problèmes-là. Donc, les femmes, à ce moment-là, souvent, sont pas portées à vouloir en parler à leur entraîneur. Et elles vont se sentir seules, elles vont se sentir pas normales, pas compétentes, même frustrées à quelque part, tu sais, de ne pas être capables de faire l'activité qu'on leur demande. Puis, elles regardent autour d'elles et peut-être que chaque maman se dit la même chose aussi.
Oui, et l'article qui est paru sur Radio-Canada, en fait, écrit par Catherine Lantier, le représentait bien, c'est-à-dire une maman qui se disait plutôt mécontente parce que suite à des activités un petit peu trop intenses, activités physiques, ben il y avait perte urinaire. Puis elle se rendait compte que quand elle parlait aux femmes dans son entourage, ben c'était le cas de toutes ces femmes-là. Donc, on se rend compte, puis de toute façon, les chiffres et les statistiques sont là pour le prouver. À quels symptômes on doit faire attention lorsque l'on parle, soit de descente de la vessie ou encore de diastase abdominale, Guylaine?
Bien, à ce moment-là, souvent, les premiers signes d'un prolapsus, ça va être des fuites urinaires. Les fuites urinaires proviennent de la faiblesse du plancher pelvien, une incompétence des muscles à bien fixer la vessie. Donc, ça, c'est le premier signe qu'on doit faire attention et on doit éviter les activités qui occasionnent justement des fuites urinaires, pardon. Il y a aussi le prolapsus. Un début de prolapsus même peut donner une sensation de lourdeur, une sensation, une présence vaginale, une sensation de s'asseoir sur quelque chose et même des fois une douleur diffuse dans le bas du dos, dans le bas du ventre. Et à la limite, la descente de vessie peut donner un genre d'irritation, de douleur vaginale parce que là, la muqueuse vaginale va être sortie un peu ou en contact avec les vêtements, alors avec la friction. Souvent, on peut s'imaginer à tort qu'on a une infection vaginale ou autre. Là. La descente aussi peut faire en sorte que la femme peut commencer à avoir du mal à uriner, avoir l'impression qu'elle ne vide jamais bien sa vessie, ce qui va faire en sorte qu'elle va se rendre plus souvent urinée. Il va y avoir des risques d'infection urinaire accrus. Alors, c'est tous des symptômes qu'il faut faire attention.
Et ça se passe habituellement, Guylaine, suite à l'accouchement ou quelques semaines, quelques mois après?
Ça peut arriver en postpartum immédiat, comme ça peut arriver plusieurs semaines après l'accouchement, surtout si la femme n'est pas consciente qu'elle a une faiblesse à ce niveau-là. Et justement, si elle commence à porter son bébé, rester debout très longtemps, si elle souffre de constipation, si elle recommence, comme on parlait, des activités physiques avec impact trop tôt, mm-hmm. bien, ça va faire en sorte que son plancher pelvien va continuer à s'affaiblir et éventuellement à donner des problèmes qu'on a parlé un petit peu plus tôt.
Guylaine, lorsque les symptômes que l'on vient d'énoncer sont reconnus, est-ce que l'on veut voir notre médecin? Est-ce qu'on attend un petit peu? On observe ce qui se passe? Qu'est-ce que vous recommandez en ce sens?
Bien, en fait, là, toutes les femmes qui accouchent devraient suivre la rééducation périnéale et pelvienne en postpartum, même celles qui n'ont pas de problème d'incontinence. Pour récupérer la force, le tonus périnéal, traiter l'incontinence urinaire, traiter les cicatrices aussi qui peuvent causer de la douleur, qui peut éventuellement causer ce qu'on appelle la dyspareunie, donc la difficulté à avoir des relations sexuelles. Et pour ça, pas besoin de voir son médecin nécessairement. De toute façon, le suivi postnatal est pas souvent présent, surtout pour les femmes qui n'ont même pas de médecin de famille. Donc, c'est de consulter directement une physiothérapeute là, spécialisée en rééducation périnéale et pelvienne.
Mm-hmm. Oui, parce que souvent, le bébé est très, très suivi après la naissance, mais pas nécessairement la maman.
Non, c'est ça, exactement. Alors, on oublie souvent la maman, surtout après l'accouchement. Et la mère s'oublie souvent elle-même parce que, bon, elle est trop occupée là, avec son enfant. Elle a déjà beaucoup à faire avec son enfant. Donc, mais c'est quand même important là, de s'occuper de ça.
Parce que si j'entends bien, toutes les femmes devraient suivre une rééducation périnéale après l'accouchement, mais en ce moment, ce n'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas, malheureusement. En France, toutes les femmes qui ont accouché vont suivre systématiquement ces traitements-là. Même l'État paye les visites. Ouais.
Okay.
Mais nous, ça se donne en privé, puis je doute que ça devienne qu'on déprivatise ça. On est plutôt dans le sens inverse, là.
Mm-hmm.
Mais de plus en plus, les femmes on fait des efforts pour informer les médecins. Des émissions comme la vôtre, c'est excellent parce que ça les informe justement, donc ça les...
De cette importance, là.
En charge.
Oui.
Mm-hmm.
À quoi ça peut ressembler, Guylaine, une rééducation périnéale ou pelvienne?
Bien, la rééducation, c'est l'enseignement des exercices du plancher pelvien, évidemment, mais à l'aide du biofeedback. C'est-à-dire que le biofeedback va permettre de visualiser la contraction musculaire, parce qu'on travaille avec une petite sonde vaginale qui enregistre les contractions. Donc, ça va permettre à la femme de bien voir ce qu'elle fait pour améliorer sa contraction, améliorer son contrôle musculaire, puis pour bien apprendre à faire les exercices. Parce qu'on se rend compte souvent, quand les femmes arrivent à la clinique, ils disent « Ah, si c'est les exercices de Kegel, je les connais, je les ai déjà faits, ça marche pas. » Mais on se rend compte que les exercices ne sont pas faits correctement. Ces femmes-là, finalement, ne les faisaient pas bien. Alors, les études, d'ailleurs, ont clairement démontré là, que les exercices sont plus efficaces s'ils sont supervisés. Parce qu'autrement que ça, 40 % des femmes ne les font pas correctement. Alors, c'est quand même beaucoup, là. On va aussi faire de la stimulation neuromusculaire, c'est-à-dire on va faire contracter ces muscles-là pour permettre à la patiente de mieux sentir ses muscles, puis de rendre les exercices beaucoup plus efficaces, là.
Oui.
Puis la stimulation est aussi utilisée là, pour traiter la douleur aussi au niveau de la région périnéale. Puis il y a des techniques manuelles qu'on va utiliser pour aider à la contraction, étirer, relâcher des muscles qui sont raccourcis ou tendus. Puis on peut éventuellement faire l'essai et installer un pessaire qui va offrir une assistance supplémentaire aux muscles. Dans le contrôle des fuites puis dans le support des organes pelviens. Alors souvent, les femmes vont avoir suivi la rééducation périnéale, mais ils vont rester incommodés un peu par des fuites résiduelles là, à la course à pied, par exemple. Alors la femme va apprendre comment se l'installer, comment se l'enlever pour porter le pessaire, par exemple, juste quand elle va faire de la course à pied.
Mm-hmm. Est-ce que certains accessoires sont utilisés dans le cadre d'une rééducation périnéenne?
Oui, bien c'est ça, c'est la sonde endovaginale qu'on va utiliser pour justement travailler et en biofeedback et en stimulation musculaire. Puis il y a d'autres, bon, il y a d'autres moyens aussi, mais dans les traitements de douleurs et autres, là, qui n'est pas le sujet de la chronique aujourd'hui.
OK. Et dans le cas d'une descente de la vessie ou de fuite urinaire, quelles sont les possibilités pour une femme? Bon, vous parliez de ce petit truc-là que l'on peut s'insérer lorsqu'on va faire une activité physique, mais ça, est-ce que c'est du dernier recours ou c'est ce qui est conseillé dans la majorité des cas? Bon, et si ça ne fonctionne pas, vers quoi une femme peut se tourner?
Oui, bien c'est... Le traitement de première ligne, que ce soit pour les fuites urinaires, pour les cas de douleur, les cas de vessie hyperactive ou de prolapsus, ça reste la rééducation des muscles du plancher pelvien. Comme traitement d'appoint, il y a le pessaire qui fait son retour, il y a la chirurgie. On fait maintenant différentes sortes de chirurgies par ce qui est à la mode, c'est les tapes, là, les tapes vaginaux. Mais ça, ça doit être fait par un urologue qui en fait beaucoup, parce que c'est une technique quand même chirurgicale qui n'est pas facile. Nous, dans la région, il y a le docteur Bouchard là, qui en fait beaucoup.
Du côté de Gatineau.
Oui, c'est ça. Mais il y a un retour vers l'épaisseur de plus en plus parce que ça permet à la femme de l'installer des fois juste pour certaines activités qui sont problématiques.
Mm-hmm. Et sinon, ben c'est bon, il y a la chirurgie, mais si j'entends bien, ça finit par se régler tout ça.
Souvent, oui.
Okay.
C'est pour ça que c'est important de commencer la rééducation tôt pour éviter que le prolapsus devienne trop important.
Oui.
Pendant les premiers degrés de descente, c'est possible de récupérer, de régler le problème, mais si on attend trop, là, les exercices, souvent, ne sont pas suffisants. On doit souvent avoir recours soit au pessaire ou à la chirurgie.
Hélène Derry, vous êtes physiothérapeute spécialisée en rééducation périnéale, cofondatrice de la clinique Europhysio. Et de votre côté, vous avez dû élargir vos bureaux, engager d'autres physiothérapeutes parce qu'il y avait une plus grande demande du côté de la rééducation pelvienne et périnéale.
Oui, justement, ben, étant donné que l'information circule un petit peu plus qu'avant,
oui.
C'est encore tabou, mais pas mal moins qu'avant. Les femmes vont en parler un petit peu plus. Les médecins commencent à être plus, plus informés, plus conscients du problème. Il y a encore du chemin à faire, mais tu sais, je pense que c'est ça. Là, on est dans le bon chemin là pour être en mesure de prévenir ces problèmes-là. Comme je dis tout le temps, il n'y a pas de raison de voir autant de descentes de vessie qu'on en voit là présentement, mais c'est appelé à s'améliorer avec le temps, je suis convaincue. Là.
Et de voir des jeunes mères blessées aussi dans une période où justement elles doivent focaliser, se concentrer à s'occuper de quelqu'un d'autre quand la santé n'est pas maximale, ben déjà là, il y a un problème. Et si on peut y remédier dès le départ, ben c'est déjà un pas vers l'avant.
Oui, absolument.
Oui.
Absolument.
Hélène Derry, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. On vous salue ainsi que tous les gens qui nous écoutent du côté de Gatineau. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Quentin Gué, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, cofondateur de l'application mobile Le Docteur qui a été lancée plus tôt cet été, juillet 2015. Et peut-être suite à cette observation, à savoir que 60 % des visites à l'urgence pourraient être traitées par soit un médecin de famille ou encore en clinique. Est-ce que c'était ça un petit peu l'objectif de l'application Docteur, Quentin?
Donc, est-ce que vous parlez de l'application Docteur ou de la nouvelle application Check-in?
Je parle de l'application Docteur.
Donc, l'application Docteur, en fait, c'était quand on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de données qui étaient disponibles sur Internet via le gouvernement. Et puis, on s'est dit avec notre équipe que le moment où on doit aller à l'urgence, normalement, c'est une décision qui se prend très rapidement et que le meilleur endroit pour avoir les données, c'est dans un téléphone intelligent et c'est pas sur le web. Donc, on a décidé de mettre cette information pour qu'elle soit accessible rapidement et qu'on puisse, quand on doit aller à l'urgence, prendre une décision en voyant le taux d'occupation et puis voir si, en alternative, on ne pourrait pas aller dans une clinique sans rendez-vous en voyant à quel point les urgences sont occupées.
Mm-hmm. Check-in est la suite de votre projet après le lancement de l'application Docteur. C'est ça, Quentin?
Exactement. Donc ça, c'est une deuxième application qu'on a lancée. En fait, avec le succès de la première application, on a pu rencontrer beaucoup de professionnels de la santé. Puis une des choses qu'on a remarquées, c'est qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'il y avait beaucoup d'annulations à dernière minute. Ouais. Il y avait quand même assez de rendez-vous qui n'étaient pas pris ou qui n'étaient pas bookés dans la semaine. Et pourtant, la demande est en constante augmentation. Donc, on s'est dit, ça serait bien de pouvoir faire un système où les gens qui ont besoin d'une consultation rapidement pour une situation assez urgente, mettons pour un spécialiste, puissent s'inscrire dans une liste d'attente virtuelle et puis recevoir des alertes si à la dernière minute, il y a un rendez-vous qui se libère proche de leur location.
Et comment ça fonctionne? Je pense que c'est sur un modèle de géolocalisation.
Donc, effectivement, on demande, en fait, en trois étapes, on demande à la personne quel service elle a besoin. On demande qu'elle précise, dans le cas d'un spécialiste, qu'elle prenne une photo de la référence. Puis ensuite, on demande aussi quelques autres petites informations. Puis on prend aussi dans quelle région de la ville de Montréal que vous êtes en ce moment. Et ça part dans une interface, dans un portail pour les cliniques qui, quand ils ont une annulation à dernière minute, ils peuvent voir les références des personnes qui sont proches de la clinique et puis ils peuvent appeler les personnes ou envoyer des notifications sur le téléphone pour réassigner ce rendez-vous et faire en sorte qu'il ne soit pas perdu.
Mm-hmm. Est-ce que ça pourrait également être utile lorsque l'on se dit « OK, moi, j'ai besoin d'un dermatologue, où je peux en trouver un près de chez moi? »
Donc, présentement, on remplace pas la recherche. Donc, rechercher les patients ont toujours... ils doivent toujours continuer à chercher un dermatologue. Par contre, on a fait des accords avec, par exemple, des dermatologues. Et si ces derniers ont une annulation à dernière minute, qu'ils peuvent recevoir des patients supplémentaires, dans ce cas-là, ils iront dans l'application et ils iront envoyer des alertes. Donc, en fait, c'est un peu comme un assistant de recherche de rendez-vous. Ouais. D'un côté, vous continuez à faire vos recherches et vous prenez rendez-vous dans 3 à 6 mois en fonction de qu'est-ce que vous trouvez. Et de l'autre côté, nous, on recherche pour quelque chose dans la semaine qui peut vous être réassigné rapidement. Et puis, dans ce cas-là, si on arrive à vous assigner, si une des cliniques partenaires a un rendez-vous à donner qu'il vous est assigné, dans ce cas-là, vous avez économisé 3 mois d'attente.
Et c'est disponible partout au Québec?
Alors, pour l'instant, on est en projet pilote juste dans la région du Grand Montréal et puis on aimerait avoir comme ambition de s'étendre dans le reste du Québec au début de l'été.
Et ça va demeurer gratuit? Est-ce que c'est votre souhait, Quentin?
Donc, pour l'instant, on est en projet pilote. Donc, c'est un peu un outil de... On fait un peu de la recherche pour savoir... C'est quoi la meilleure façon de fonctionner? Et puis, on étudie aussi qui est-ce qui va devoir payer pour ce service. À ce moment-là, on est encore en train de recueillir de l'information. Pour l'instant, la plateforme est entièrement gratuite pour les patients et pour les cliniques. Et puis, on invite tout le monde, à la fois les cliniques et les patients, à l'essayer. On recueille toutes les informations, on recueille les commentaires, les critiques. Et puis, d'ici la fin du... du projet pilote qui va être à la fin du mois d'avril, on pourra prendre une décision qui permettra de faire en sorte que ce système fonctionne et soit viable.
Oui. Je sais qu'en juillet, Quentin, vous et votre équipe, vous désiriez rencontrer le ministre Barrette afin de pouvoir discuter des besoins, des différents constats. Est-ce que c'est une rencontre qui a pu être faite?
Donc, présentement, on a juste pu discuter avec le Conseil du Trésor et le ministère de la Santé. On n'a pas discuté avec M. Barrette directement, mais on a quand même parlé à des hauts fonctionnaires. On a pu voir c'était quoi les enjeux du gouvernement et qu'est-ce qui pouvait être fait. On est toujours en discussion, mais pour l'instant, il y a rien qui a été concrètement fait. Mais on a quand même réussi à avoir une amélioration des jeux de données qui était par rapport à juillet. C'est-à-dire en juillet, on n'avait pas toutes les régions du Québec qui étaient dans l'application Docteur pour les urgences. Il manquait beaucoup d'urgences. Certaines données n'étaient pas mises à jour à toutes les heures. Donc depuis la fin décembre, le gouvernement nous a fourni toutes les données pour toutes les urgences de tout le Québec qui sont mises à jour à toutes les heures. Donc c'est une première collaboration. Qui était vraiment bien. Puis là, on espère aller une étape plus loin. Puis on aimerait bien essayer de calculer des temps d'attente pour chaque salle d'urgence au Québec. Donc, ça demande un peu plus de données, donc et ça demande plus aussi de travail. Mais on essaie de collaborer avec eux à ce niveau-là aussi pour faire comme d'autres provinces canadiennes le font déjà, une application qui donne les temps d'attente dans les urgences. Comme ça permet aux gens de pas regarder juste des pourcentages, mais de regarder des minutes et d'avoir une meilleure estimation.
Oui, tout à fait. Tout ça devient bien plus concret. Je reviens à check-in, je pense, Quentin, en disant que cet outil peut également aider ou favoriser les professionnels de la santé. Oui, d'une part, ça peut aider les patients, le grand public, mais il y a des avantages aussi pour les médecins ou encore les cliniques.
Oui, ça leur permet donc d'optimiser leurs opérations. Ils ont des annulations à dernière minute. C'est sûr que quand il y a une annulation et qui peut pas être remplie, pour certains spécialistes, par exemple, on pense à la médecine interne où les rencontres durent 40 minutes. Quand quelqu'un ne vient pas, ouais. 40 minutes de perdu dans une journée pour un médecin. Donc, il y a un avantage financier. Et puis aussi pour que les médecins puissent aussi mieux accomplir leurs devoirs. Ouais. Ils aiment pas ça quand ils ont un trou dans leur horaire.
Il y a un gain de productivité pour tout le monde. Très rapidement, Quentin, il nous reste quelques secondes. Oui. On dirige les gens vers où s'ils veulent participer à vos applications?
Donc, vous pouvez aller sur le site docteur.ca, doctr.ca, et puis il y aura un lien à la fois pour l'application Docteur.
D'accord.
Et l'application Check-in.
Merci, Quentin Gay.
Merci
au plaisir,
beaucoup.
Au revoir. À demain, tout le monde! Bye-bye, portez-vous bien.